Chapitre 6. Au début de ce chapitre, nous voyons les pharisiens et les scribes essayer de restreindre les actions des disciples, ainsi que la puissance en grâce du Seigneur, aux limites du sabbat juif, comme ils avaient coutume de l'observer. Cela illustre l'enseignement du Seigneur donné à la fin du chapitre 5. En conséquence, l'outre du sabbat juif se rompt et la grâce se répand malgré les pharisiens. L'expression « le jour du sabbat, second premier » se rapporte, croyons-nous, à Lévitique 23, versets 9 à 14, et est employée pour nous montrer que la gerbe tournoyée avait déjà été offerte. Aussi n'y avait-il rien à objecter à la façon d'agir des disciples, sinon la façon stricte dont eux, pharisiens, observaient le sabbat. La réponse du Seigneur à leur objection est formée de deux éléments. D'abord sa position, ensuite, sa personne. Sa position est analogue à celle de David lorsqu'il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition. David était le roi oint par Dieu et pourtant rejeté. Il n'était pas dans la pensée de Dieu de laisser son oint et ceux qui étaient avec lui avoir faim pour respecter les menus détails de la loi. Tout le régime d'Israël était désorganisé par le rejet du roi. Et ce n'était pas le moment de centrer son attention sur les points de détail de la loi. De même, ici, les pharisiens se soucient de minutie tout en rejetant Christ. Le verset 5 met en relief la personne de Christ. L'homme, lorsqu'il fut créé, fut fait seigneur de la création terrestre. Le Fils de l'homme est seigneur d'une sphère bien plus vaste. Il n'est pas lié par le sabbat. Le sabbat est à sa disposition. Qui est donc ce Fils de l'homme? C'est ce que les pharisiens ne savaient pas. Mais le Seigneur montre sa grandeur par ce titre qu'il revendique. L'incident se rapportant à l'homme à la main sèche vient ensuite au verset 6 à 11. Ici encore la question du sabbat est soulevée, et les pharisiens auraient poussé leurs subtiles objections jusqu'à interdire l'exercice de la miséricorde en ce jour-là. Nous voyons ici non pas la revendication de la position du Seigneur, ni de sa personne, mais de sa puissance. Il a le pouvoir de guérir en grâce, et ce pouvoir il l'exerce, que les pharisiens le veuillent ou non. Le Seigneur relève leur défi, et, faisant lever l'homme devant eux, il le guérit à la vue de tous. Les princes des Philistins avaient essayé de lier les mains de Samson avec 7 cordelettes fraîches, mais ils l'avaient fait en vain. Les chefs d'Israël essaient ici de faire des cordelettes avec la loi du sabbat pour en lier les mains pleines de grâce de Jésus, et eux aussi le font en vain. N'y réussissant pas, ils sont hors d'eux-mêmes et se mettent à comploter pour faire mourir Jésus. Face à cette haine croissante, celui-ci se retire dans la solitude de la communion avec Dieu. Dans le chapitre précédent, nous l'avons vu se retirer pour prier, au moment où de grandes foules s'assemblaient autour de lui et où il semblait sur le point de connaître le triomphe. Il fait exactement la même chose lorsque les épais nuages de l'opposition semblent l'entourer. Dans toutes les circonstances, la prière est la ressource de l'homme parfait. De plus, il est significatif que ce qui a suivi cette nuit de prière fut le choix qu'il fait des 12 qui allaient être envoyés comme apôtres. Parmi eux se trouvait Judas Iscariote. Pourquoi devait-il en faire partie? Cela reste un mystère pour nous. Quoi qu'il en soit, le Seigneur l'a choisi, et son choix était bon. Aucune erreur ne pouvait suivre après cette nuit de prière. À partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, nous avons l'enseignement que le Seigneur a donné à ses disciples, et plus particulièrement à ses 12. Nous pouvons résumer ces paroles en disant que le Seigneur instruit ses disciples quant au caractère qui serait produit chez eux par la grâce de Dieu qu'il faisait connaître. Ce discours ressemble beaucoup au sermon sur la montagne de Matthieu 5 à 7, mais il semble que celui-ci ait été fait à un moment différent. Il n'y a pas de doute que le Seigneur a répété à maintes reprises des choses très semblables et à des foules différentes. En cette occasion, le Seigneur s'adresse à ses disciples eux-mêmes. Dans l'évangile de Matthieu, il décrit une certaine classe de gens et dit que le royaume est à eux. Ici, il dit « à vous » est le royaume, identifiant cette classe avec les disciples. Ces disciples sont les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui sont haïs et insultés. Une telle description indique que le Seigneur considère déjà son rejet comme certain, et les versets suivants, versets 24 à 26, montrent qu'il divise les gens en deux classes. Il y avait ceux qui étaient identifiés avec lui-même, partageant ses souffrances, et ceux qui étaient du monde et en partageaient les joies éphémères. Sur les premiers, il invoque une bénédiction, sur les seconds, une malédiction. Ceci implique évidemment une profonde antinomie. Ceux qui sont affligés et rejetés sont les bienheureux, ceux qui sont heureux et populaires sont sous le jugement. Mais les premiers suivent les traces du Fils de l'homme et souffrent pour son nom, tandis que les autres suivent le sentier des faux prophètes. Ayant ainsi appelé une bénédiction sur ses disciples, le Seigneur leur donne des instructions qui, s'ils les suivent, montreront qu'ils reflètent l'esprit de grâce du Seigneur. En fait, il n'envoie pas encore ses disciples, mais il les instruit en vue de la mission qu'ils auront de le représenter et de servir ses intérêts. Cet esprit de grâce est spécialement marqué dans les versets 27 à 38. L'amour qui peut se montrer et même faire du bien à un ennemi n'est pas humain, mais vient de Dieu, alors que n'importe quel homme pécheur peut montrer de l'amour à qui lui en montre. Le disciple de Jésus se reconnaît parce qu'il aime, il bénit, il donne. D'autre part, il ne faut pas qu'il juge et condamne. Cela ne veut pas dire qu'un disciple ne doit pas exercer ses facultés pour juger sainement et agir avec discernement, mais au contraire, qu'il ne doit pas être caractérisé par un esprit de critique prompt à imputer aux autres de mauvais motifs et ainsi à les juger. Ces enseignements convenaient parfaitement à ceux qui étaient appelés à suivre Christ pendant son séjour sur la terre. L'essence de ces enseignements s'applique également à ceux qui sont appelés à le suivre pendant son absence dans les cieux. C'est maintenant le jour de la grâce, pendant lequel l'évangile de la grâce est prêché, et c'est pourquoi il est de la plus grande importance que nous soyons marqués par l'esprit de grâce. Hélas, comme notre conduite a souvent démenti la cause avec laquelle nous sommes identifiés, l'effet de maintes prédications pleines de grâce peut être totalement annulé s'il y a manque de grâce dans la conduite du prédicateur ou de ses amis. C'est en manifestant de l'amour que nous montrons que nous sommes les vrais enfants de Dieu, du Dieu qui est bon envers les ingrats et les méchants. Il n'est pas facile de discerner l'enchaînement de l'enseignement contenu dans les versets 39 à 49, mais il s'y trouve assurément. Ses disciples allaient avant longtemps être envoyés comme apôtres, aussi devaient-ils être eux-mêmes des personnes capables de voir. Pour être capables de voir, ils devaient être enseignés, et pour cela, ils avaient à prendre la place d'humilité aux pieds de leur maître. Ils n'étaient pas au-dessus de lui. Lui était au-dessus d'eux, et le but placé devant eux était de lui ressembler. Il était la perfection, et une fois leur temps d'étude terminé, il lui serait semblable. Pour qu'il en soit ainsi, il faut cultiver un esprit de jugement de soi-même. Notre tendance naturelle est de juger les autres et d'en remarquer les plus petits fétus. Si nous nous jugeons nous-mêmes, il se peut que nous nous découvrions de vraies poutres. Et si nous nous jugeons honnêtement nous-mêmes, nous pourrons peut-être alors aider les autres. À partir du verset 43 est examinée la profession extérieure de disciple. En parlant ainsi, il se peut que le Seigneur ait eu particulièrement en vue quelqu'un comme Judas. Parmi ceux qui prenaient la place de disciple, il se trouverait peut-être un homme mauvais, aussi bien qu'un homme bon. Ceux-ci seront discernés par leurs fruits, vus à la fois dans leurs paroles et leurs actions. La nature se révèle par les fruits. Il ne nous est pas possible de pénétrer les secrets de la nature soit dans un arbre, soit chez un homme. Mais nous pouvons reconnaître la nature, sans difficulté et sans erreur, d'après les fruits. Cela conduit à prendre conscience que la simple profession ne compte pour rien. Les hommes peuvent, à maintes reprises, appeler Jésus leur Seigneur. Mais si l'obéissance à sa parole est absente, le Seigneur ne les reconnaît pas comme disciples. Le seul fondement qui ne puisse être ébranlé par les épreuves est celui qui est établi sur l'obéissance. Écouter simplement la parole sans lui obéir peut ériger un édifice qui ressemble à la chose réelle, mais au jour de l'épreuve, ce sera le désastre. Plaçons-nous tous sous la puissance pénétrante de cette parole. Le croyant le plus sincère a besoin de se tenir devant elle, et aucun de nous ne peut y échapper. Ceci s'applique à la sphère complète de la vérité. Rien ne nous appartient réellement et pleinement jusqu'à ce que nous nous soumettions avec l'obéissance de la foi, non seulement l'acquiescement de la foi, mais l'obéissance de la foi. Alors, et seulement alors, nous serons établis dans la vérité, de telle sorte que nous serons fondés sur le roc. Ces paroles de notre Seigneur nous dévoilent, sans aucun doute, le secret de maintes chutes tragiques de vrais croyants dans leur témoignage, comme aussi la chute et l'abandon de la profession de disciples de la part de ceux qui s'y sont engagés sans réalité. La réalité est ce que, par-dessus toute chose, le Seigneur demande.